Je lis dans Éphésiens au chapitre 6 et à partir du verset 10. Donc c'est la fin de la lettre. Et Paul écrit pour conclure, « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Alors je lis encore un verset. « C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. » Je lirai la fin de ce passage en conclusion. Et donc oui, je voulais introduire ces chapitres des Actes avec ce passage-là pour que vous puissiez avoir à l'esprit que dans les luttes que ces chapitres des Actes vont décrire, vous puissiez garder à l'esprit que toute lutte est d'abord une lutte spirituelle. Donc je vais lire les chapitres donc 18 et 19. Je vais sauter certains passages parce que c'est un petit peu long. Alors ce sont des passages qui sont narratifs, hein, qui racontent une histoire, donc ça s'entend assez bien. Donc c'est pour ça que je me permets de lire un passage assez long. Je reprends au verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voix du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l'eurent entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent plus précisément la voix de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'y encouragèrent vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. Dès son arrivée là-bas, il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur et en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus était le Messie. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenus croyants ?» Ils leur répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » « Mais quel baptême avez-vous donc reçu ?» demanda Paul. « Celui de Jean-Baptiste, » lui répondirent-ils. « Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue, où pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du règne de Dieu et s'efforçait de convaincre les auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tinrent des propos méprisants au sujet de la voix du Seigneur. Alors Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qu'il continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura environ 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait même jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits s'enfuyaient. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons, voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. « Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. » Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous » Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison, les vêtements en lambeaux et couverts de meurtres de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs, furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de tous. Leur valeur fut estimée à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se répandait de plus en plus avec la puissance du Seigneur. Ensuite, Paul, encore une fois, va quitter la ville et partir pour Rome. Et ensuite, le chapitre se termine sur la narration d'un incident qui a lieu à Éphèse, où un certain Démétrius qui fabrique des temples en argent pour le culte de la déesse Artémis, harangue la foule en leur disant que les chrétiens deviennent menaçants pour le culte qu'ils rendent à la déesse. Donc je lis au verset 27. Je lis même un petit peu plus tôt. Ce Paul a remué de grandes foules. Il les a persuadés que les divinités fabriquées par ces hommes ne sont pas de vrais dieux. Ce n'est pas seulement notre corporation qui risque d'être discréditée, mais le temple de la grande déesse Artémis lui-même pourrait y perdre toute sa renommée. Toute l'Asie et le monde entier adorent cette déesse, il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'elle soit discréditée. Et à ces mots, les auditeurs devinrent furieux et se mirent à scander « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». Donc toute la ville entre en effervescence. Et Paul, donc Luc continue. Cependant, l'assemblée se tenait dans la plus grande confusion. Les gens hurlaient, mais personne ne criait la même chose et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient venus. Les gens de cette foule expliquèrent l'affaire à un certain Alexandre que les Juifs avaient poussé en avant. Alexandre fit signe de la main qu'il voulait s'adresser au peuple pour prendre la défense de ses corélégionnaires. Mais donc, dès qu'on lui apprit qu'il était juif, tous se remirent à crier en chœur pendant près de 2 heures « Grande est l'Artémis d'Éphèse ». Donc la scène se poursuit et finalement c'est un secrétaire de la ville qui va convaincre la foule qu'il vaut mieux arrêter parce que sinon les Romains vont considérer qu'il y a une émeute et à ce moment-là l'armée serait intervenue. Donc voilà les aventures de Paul et des chrétiens entre Corinthe et Éphèse. Et dans ce passage, on voit donc l'opposition que rencontre Paul, que rencontre l'Église, et on voit s'affronter deux camps bien distincts, et c'est particulièrement mis en évidence par cet épisode avec l'esprit mauvais qui différencie entre ceux qu'il connaît et ceux qu'il ne connaît pas. Normalement, quand on grandit, quand on devient un peu plus mûr, on apprend que rien n'est simple, rien n'est tout blanc ou tout noir. On apprend que les hommes, quels qu'ils soient, contiennent une part de ténèbres, une part de lumière, que même le meilleur d'entre nous a une part d'ombre en lui, et même le pire des hommes peut contenir une étincelle d'amour ou de bonté. Pourtant, ici, ces textes mettent en évidence une séparation très nette, deux camps bien distincts qui s'affrontent, et on voit même la coupure qui se manifeste même dans la vie des disciples, et on le voit quand les disciples de Jean sont baptisés au nom du Seigneur et où ils passent à une nouvelle identité, à une nouvelle relation à Dieu. Alors on va d'abord regarder un petit peu comment se comportent et qu'est-ce qui caractérise ceux qui sont dans le camp de ceux qui s'opposent à Dieu. Et il y a plusieurs groupes de personnes dans ces passages qui sont les opposants à l'action à la propagation de l'Évangile et à l'action de Paul. Les premiers qui interviennent donc sont les Juifs. Les Juifs, donc, qui apparaissent deux fois dans ce passage-là, d'abord à Corinthe et puis à Éphèse, et le texte nous dit qu'ils refusent d'écouter ce que dit Paul, ils refusent de se laisser convaincre, Et il le manifeste d'une façon violente, d'abord par des insultes, ensuite par une tentative de faire mettre Paul en prison ou de le faire supplicier par les Romains. D'autres passages, on les voit qui essayent de le tuer. On voit le caractère d'orgueil spirituel qui les anime, le refus d'entendre, le refus de se laisser convaincre que Jésus est le Messie. Notre groupe de personnes qui s'opposent, et on le voit dans le passage à Corinthe, c'est les Romains. Et les Romains, comme ils l'ont fait à Jérusalem pour Jésus, là, le gouverneur, c'est Gallion, et il fait comme Pilate, il va simplement s'en laver les mains et dire « ce n'est pas mon problème », et finalement manifester simplement de l'indifférence par rapport à ce qui est en train de se jouer. Un autre groupe de personnes qui va s'opposer à l'Évangile, ce sont des païens à Éphèse, où on voit une corporation d'artisans chercher à monter la ville contre les chrétiens et contre l'Église, parce qu'ils voient en eux une menace pour leur commerce, une menace aussi pour leur mode de vie, une menace pour la façon dont leur monde est conçu, leurs valeurs. Et donc ils s'opposent, ils vont s'opposer là aussi violemment aux chrétiens qui sont dans la ville. Un point qu'on peut mentionner, c'est que c'est au moment où la foule se forme que finalement la violence et la bêtise aussi augmentent et se manifestent d'une façon encore plus évidente. À Corinthe, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les chrétiens, en tout cas à ce moment-là, qui est roué de coups, Sosthène, le chef de la synagogue. Quand c'est à Éphèse, donc c'est là aussi, on voit la foule qui se met à scander pendant des heures le même mantra, grande est l'Artémis d'Éphèse. On voit cette violence et cette bêtise qui se coagule au moment où la foule se forme. Et on peut pour faire un lien avec l'actualité récente et constater que malheureusement on retrouve les mêmes mécanismes à l'œuvre quand la colère, la peur prennent le dessus sur un groupe d'humains, et que ces sentiments-là sont ceux qui dominent, on retrouve les mêmes mécanismes de violence et de bêtise. On a vu ça il n'y a pas si longtemps en Corse, où effectivement on a frôlé un lynchage. Le même mécanisme avec des gens qui scandent des slogans. Et alors on voit qu'ici, dans ces trois groupes d'opposants, on ne voit pas de personnalisation de la puissance spirituelle qui est à l'œuvre. Ce n'est pas une puissance spirituelle personnelle, mais c'est une démarche d'opposition au message de Dieu. C'est la mise en avant de la colère, de la violence, et la manifestation de cette colère et de cette violence comme on l'a vu, est quelque chose qui continue à exister, même de nos jours. Et c'est quelque chose à laquelle on doit faire attention et à laquelle on doit être attentif. Il y a une quatrième forme d'opposition que ce passage nous raconte, et c'est celui de l'esprit mauvais dont il est parlé donc au chapitre 19. Et ici, par contre, c'est bien une puissance personnelle, une puissance qui dit « je », qui parle, qui va se manifester et manifester sa méchanceté, sa violence, là encore. Mais comme souvent dans les évangiles, quand il est question d'esprit mauvais, il y a une certaine, j'ai envie de dire, ambivalence dans la façon dont cet esprit est présenté. Il est présenté comme mauvais, comme opposé à Dieu. Et malgré tout, cet esprit va reconnaître l'autorité de Jésus, l'autorité de Paul, et va être capable de différencier entre ceux qui possèdent vraiment cette autorité, Jésus et Paul, et ceux qui ne font que de s'en réclamer. Et il va dire, eux je les connais, mais vous je ne vous connais pas. Ça rappelle une parabole de Jésus qui dit, à la fin, beaucoup diront, nous avons invoqué ton nom, nous avons fait des choses en ton nom, et Jésus leur dira, oui mais moi je ne vous connais pas. Ce passage-là, donc avec cet esprit mauvais, montre la différence fondamentale qu'il y a entre ceux qui connaissent le Christ et ceux qui en ont simplement entendu parler. Pour les uns, ils sont revêtus de l'autorité de Christ. Et pour les autres, eh bien, ce passage nous montre qu'ils n'ont aucune autorité spirituelle sur cet esprit mauvais qui va les malmener. La réaction des croyants, d'ailleurs, qui suit cette histoire, montre bien que les croyants, à ce moment-là, comprennent l'idée de cette distinction et de cette séparation claire et nette entre les ténèbres et la lumière. Les croyants vont donc se débarrasser de tous leurs livres de magie, de sorcellerie, de tout ce qui les lie à ce monde des ténèbres qui s'oppose à Dieu. On peut voir maintenant le deuxième groupe, donc de ceux qui, au contraire, de ceux qui s'attachent à Dieu et qui vont répondre à son appel. D'abord, les Juifs encore, mais cette fois-ci des Juifs qui reçoivent le message de Paul, qui reçoivent le message que Jésus est le Messie qu'ils attendaient, et ces Juifs se convertissent, sont baptisés, entrent dans l'Église. D'autres, des païens, eux aussi reçoivent la bonne nouvelle que le règne de Dieu s'est approché et que eux aussi peuvent entrer en relation avec Dieu et deviennent à leur tour chrétiens en étant eux aussi baptisés. Un troisième groupe de personnes apparaît dans ce passage-ci. Et c'est ce groupe de personnes, les disciples de Jean-Baptiste. C'est intéressant de voir leur cheminement et par où eux aussi doivent passer. Donc il nous est parlé d'Apollos, donc un juif, mais hellénisé, qui vient donc du monde grec, très instruit, manifestement très intelligent, qui connaît bien les Écritures, qui a reçu l'enseignement de Jean-Baptiste, même l'enseignement de Jean-Baptiste qui parlait de Jésus, et qui met cette connaissance au service de l'annonce de ce changement, de ce renouvellement de la foi. À ce moment-là, Apollos est un juif qui cherche à renouveler la foi et l'engagement spirituel de ses frères. Et pourtant, Apollos, lui aussi, doit passer par le même chemin et la même prise de conscience que Jésus est le Christ, et que c'est à travers lui, et seulement à travers lui, qu'il peut être sauvé. Et Apollos va accepter de recevoir ça, de recevoir cet enseignement de Aquilas et Priscille, deux fabricants de tentes. Et donc le grand érudit va accepter cette révélation, parce que c'en est une. Le texte nous est très laconique sur la façon dont finalement ça va changer les choses pour Apollos. On a l'impression que pour lui il n'y a pas de rupture. Il prêchait dans les synagogues pour enseigner les Juifs. Il va continuer à prêcher, cette fois-ci en enseignant que le texte nous dit que Jésus est le Messie, et il va aller enseigner ça encore dans les synagogues pour convaincre les Juifs de se convertir. Et le passage qui suit donc nous parle d'autres disciples de Jean-Baptiste, où là la rupture va être beaucoup plus voyante et manifeste. Donc ces disciples de Jean-Baptiste qui avaient reçu l'enseignement sur le fait qu'il fallait changer de vie, qu'il fallait se détourner d'une vie sans Dieu pour s'attacher à le suivre. Donc ces disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas reçu cet enseignement sur le baptême de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le baptême de Jean, qui était un baptême de manifestation du désir de s'engager avec Dieu, de changer de vie, le baptême de Jésus, c'est pas la même chose. Le baptême de Jésus, ça symbolise d'abord sa mort et sa résurrection. C'est de comprendre que pour pouvoir être réconcilié avec Dieu, eh bien, chaque homme a besoin de mourir à lui-même, de recevoir le sacrifice que Christ a accompli à sa place, à la croix, pour pouvoir revivre avec lui. Cette compréhension de la place de Christ dans son histoire personnelle, dans l'histoire du salut, dans l'histoire de l'humanité, la compréhension et l'acceptation de cette révélation de Dieu fait entrer ses disciples dans le royaume. Dans le royaume. Et la manifestation de ça, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en eux et se manifeste à ce moment-là. L'Esprit de Dieu est venu habiter aussi en Apollos. Mais la façon dont il s'est manifesté, ça a été de permettre à Apollos d'enseigner la bonne nouvelle à son peuple. Pour les autres disciples de Jean, la manifestation de ce salut, eh bien, c'est de pouvoir parler en langue et prophétiser sous l'action de l'Esprit. Les hommes sont généralement caractérisés par leur refus de se remettre en question. On s'en aperçoit peut-être encore plus maintenant qu'avant, parce que nous avons maintenant une profusion d'informations. Internet, c'est devenu, on peut trouver la connaissance emmagasinée et disponible est devenue absolument énorme. Et pourtant, les hommes ont toujours tendance à aller vers ce qui va confirmer ce qu'ils connaissent déjà et ce en quoi ils croient. C'est comme ça que le mensonge est devenu de plus en plus utilisé finalement dans la vie publique. Parce que les gens sont prêts à accepter ce qu'on leur dise, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et même si y a plein d'endroits où on peut trouver que ce qui a été dit est factuellement faux, les gens ne vont pas aller le chercher, ils vont préférer rester dans leur bulle, de connaissances et de croyances. Et c'est un phénomène qui est bien étudié et qui est mis en avant par Google, typiquement. D'accord ? Ou le fait de chercher des informations à travers Google fait que Google nous donne toujours des informations qui appartiennent à la même sphère, en fait. Et ça devient très difficile d'en sortir. Et donc, on reste dans ce qu'on connaît et on n'arrive pas à aller recevoir quelque chose qui vient de l'extérieur. Les Juifs et les païens, ici, dans ce passage-là, sont là aussi différenciés par ceux qui ont préféré rester dans ce qu'ils connaissaient, dans ce qu'ils savaient, dans ce qu'ils croyaient, et ceux qui ont accepté de recevoir un enseignement nouveau, un enseignement qui allait transformer leur vie et changer leur façon de croire et de comprendre le monde. Je reviens à cette notion de combat spirituel. On a vu donc s'opposer dans ces textes ces deux mondes, et Paul, quand il parle de son ministère, donc nous parle du fait que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais l'esprit mauvais, par exemple, parfois pas personnalisé, mais à travers cet esprit de rébellion, cet orgueil, ce refus d'entendre, cette colère, cette violence, tout ce qui traverse ces groupes d'humains et qui s'oppose à Dieu, tout ça fait partie de ce combat. Alors pourquoi c'est important de pouvoir parler de combat ? Et d'abord, pourquoi est-ce que le fait qu'un combat ait lieu, en quoi ça nous concerne encore maintenant ? D'abord, ça nous concerne, j'ai envie de dire, dans notre façon de regarder et de vivre l'Église. Parce que dans l'Église, effectivement, le combat pour que le règne de Dieu soit manifesté, parce que c'est ça l'enjeu de ce combat, autant à l'époque que maintenant, c'est que le règne de Dieu soit reconnu et manifesté pour les hommes qui nous entourent. Si nous acceptons de voir la vie de l'Église comme un combat, la façon dont nous nous engageons est différente. On ne s'engage plus seulement pour grandir soi-même, ce qui est un effet de l'engagement dans l'Église. L'objectif pour chacun d'entre nous que Dieu a, c'est que nous grandissions, que nous atteignions la stature de Christ. Mais notre engagement dans l'Église fait aussi partie d'un combat pour que le règne de Dieu soit manifesté. Parce que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est un plan de salut, un plan où les hommes reconnaissent qu'il est Dieu et arrive à le reconnaître pour Dieu. Ça, c'est l'enjeu. Donc, le fait de pouvoir distinguer dans la vie de l'Église que ces principes de rébellion à Dieu, ces principes de colère, de mensonge, ces principes de division, que tous ces principes-là se manifestent souvent à travers des individus bien particuliers, mais que notre lutte est avant tout une lutte spirituelle et une lutte où c'est la gloire de Dieu qui est notre objectif. Ça nous permet déjà de changer notre regard sur et notre façon de nous comporter aussi dans l'Église. Et aussi, ça nous permet de prendre conscience que les armes que nous allons utiliser pour mener ce combat ne sont pas des armes humaines. Parce que les armes humaines, on peut trouver de l'intelligence, on peut trouver de la force de persuasion. Parfois, peut-être, et c'est vrai dans l'histoire de l'Église, de la force physique et au bout du compte, de la violence. Mais ces armes-là ne sont pas celles d'une lutte spirituelle. Et la véritable lutte spirituelle, c'est là qu'elle est. Parce que Dieu règne. Dieu règne, c'est ce que nous croyons. Mais Dieu règne, pour le moment, il règne spirituellement. Et les armes que nous pouvons employer dans cette lutte, Paul le redit donc dans l'Épître aux Éphésiens, comptez sur la puissance de Dieu. Dans ce texte, quelle est la puissance de Dieu ? La puissance de Dieu, c'est le Christ. C'est le nom de Christ invoqué pendant qu'il enseigne. C'est le Christ que Paul transmet. C'est le Christ encore qui permet aux disciples de Jean de devenir enfants de Dieu. C'est le Christ qui est celui qui donne l'autorité sur les esprits mauvais. C'est son nom. Alors, de la même façon, quand nous luttons, c'est le Christ qui est notre force et notre arme. Parce que contre la mort, il est la vie. Contre la violence, il est la paix. Contre la peur, il est notre rocher. C'est lui qui nous permet de lutter et qui nous donne sa puissance, qui se manifeste à travers l'esprit. Soit par une puissance de conviction, soit, comme Paul l'a vécu, par des guérisons et des miracles. Et ça lui appartient. J'ai parlé de la vie de l'Église, mais ce combat spirituel, nous pouvons aussi le transposer dans nos vies individuelles. Et il nous est arrivé à Sandrine et moi une petite expérience qui est pas très très importante, mais qui nous a quand même un peu marqué. Hier, on était à un anniversaire de Zacharie, et on s'est retrouvé mêlé à un conflit, on va dire. Les enfants avaient commencé à se disputer avec d'autres enfants, bon, ce qui sont des choses qui arrivent, et les parents se sont mêlés de cette histoire-là, et c'est devenu, c'est resté dans des limites, on va dire, raisonnables, mais en tout cas, une certaine, on va dire, violence relationnelle dans les paroles, c'est à commencer à se manifester. Et donc, on a géré ça comme on a pu, en essayant de minimiser les, on va dire, la colère, justement. Mais ça nous a quand même... bon, on n'est pas... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais nous, on est rarement en conflit violent avec des gens. Ça nous arrive rarement. On participe rarement à des bagarres et ce genre de choses. Donc, bon, on n'est pas vraiment habitué à ça. Donc, ça nous a un peu quand même un peu remué. Et en y réfléchissant a posteriori, malheureusement, je me suis rendu compte qu'on avait raté une occasion de voir dans ce conflit et cette violence une occasion de vivre finalement une lutte spirituelle, une occasion de manifester que c'est le Christ qui conduit notre vie, et que face à la violence ou même à la bêtise d'autres personnes, c'est d'abord en comptant sur la puissance de l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans nos vies, et que c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer. Alors bon, on a quand même pu réagir, peut-être un peu plus tard, quand même en agissant par la prière, et en priant pour bon, cette famille avec laquelle on s'était retrouvés en conflit, pour demander la bénédiction de Dieu sur eux. On a plein d'occasions de vivre notre vie comme une lutte, non pas humaine, mais comme une lutte spirituelle, où l'enjeu reste que le règne de Dieu soit manifesté, et où les armes que nous utilisons pour être victorieux dans cette lutte, eh bien, c'est d'abord des armes spirituelles, une arme où la présence de Christ, sa puissance de réconciliation, sa puissance de réparation peut être mise en œuvre parce que nous l'invoquons. Alors je vais m'arrêter là et je vais terminer en lisant donc la fin de ce passage dans Éphésiens. Si j'arrive à le retrouver, donc dans Éphésiens 6, où on a commencé en lisant que la lutte est d'abord spirituelle. Donc je reprends au verset 14. « Tenez donc ferme, ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'esprit. » Que le Seigneur vous bénisse.